envolons-nous pour Marseille à la découverte du château Borély. L'exposition qui s'y tient actuellement nous entraîne dans des horizons lointains. Plongeons en Orient et découvrons l'Asie fantasmée des siècles passés. Une Asie qui a inondé l'Occident d'objets venus d'ailleurs. Une Asie qui a profondément inspiré les arts décoratifs européens, et particulièrement la Provence. Céramique, éventail, papier peint, paravent, boîtes à musique, pénétrons cet univers des cabinets de curiosités chers aux collectionneurs. Et partons flâner à la découverte d'œuvres d'un exotisme fascinant. Nous sommes à Marseille. Marseille, une ville, un port. Aujourd'hui, le troisième de Méditerranée. Cette puissance ne date pas d'hier. Elle est historique. Marseille, carrefour des routes maritimes, tire profit depuis l'Antiquité de sa situation géographique privilégiée. Filons à travers les siècles. À la fin du XVIIe siècle, Marseille joue déjà un rôle important dans le commerce avec l'Empire ottoman. Cet empire a conquis une grande partie des rivages méditerranéens. À son apogée, au XVIe siècle, il est aux portes de Vienne, sous le règne de Soliman le Magnifique. Cet empire, qui décline ensuite politiquement, continue pourtant de fasciner. Nous sommes maintenant au XIXe siècle. Louis Borély, membre d'une des plus entreprenantes et richissimes dynasties de négociants à Marseille, rentre d'Égypte, d'Alexandrie plus précisément, où il tient avec son frère un comptoir d'import de blé, soie, riz et huile. Il est alors propriétaire d'un terrain qui fait plus de 50 hectares sur le domaine de Bonneveine, sur la route du bord de mer de Marseille, avec vue sur la Méditerranée, les îles du Frioul et le château d'If. Ça fait rêver. Il décide d'y faire construire une bastide. Une bastide. La plus vaste et la plus belle du terroir. Une bastide pour démontrer la puissance de la famille Borély au sein de la bourgeoisie marseillaise. En 1767, il confie la réalisation de ce projet de résidence d'été, de demeure entre mer et campagne, à l'architecte parisien bien connu, Charles-Louis Clérisseau. Cet architecte a grande renommée dans toute l'Europe, et même à la cour impériale de Russie, sous le règne de Catherine II. Cela vous donne une idée de l'ampleur du projet. Il fait modifier le dessin initial par un second architecte parisien, Marie-Joseph Père, à qui l'on doit l'actuel théâtre de l'Odéon. Les façades, très ornées du plan originel, s'en trouvent allégées. Mais Louis Borély décède un an plus tard, en 1768, alors que les travaux sont à peine commencés. Son fils, Louis-Joseph Denis Borély, décide de s'entourer d'un architecte local pour poursuivre le projet. Il s'agit de Esprit-Joseph Prin, qui a participé notamment à l'édification de l'Hôtel-Dieu de Marseille. Je vous propose de nous arrêter un instant dans le parc qui mesure aujourd'hui 17 hectares, pour contempler cet édifice sobre et imposant. Posé sur une volée de quelques marches, comme sur un piédestal, comme sur un promontoire, la bastide s'élève sur trois niveaux. La partie centrale de la façade est en saillie. Cet avant-corps est animé d'un portique dont les quatre colonnes, affût lisse, viennent soutenir le balcon du premier étage et souligner les trois baies qui mènent au jardin à la française. Au sommet, un fronton triangulaire vient donner un élan vertical à cette façade majestueuse, austère, classique, où l'influence de l'antiquité gréco-romaine est évidente. Poursuivons notre chemin. Contournons l'un des ressauts latéraux du château. Nous arrivons maintenant dans la majestueuse cour d'honneur de 6 700 m². Elle est cernée par trois corps de bâtiments, le château que nous venons d'évoquer, le pavillon est et le pavillon ouest. Elle ouvre sur un vaste portail à l'arrière, dans l'axe de la bastide. Chaleur et lumière inondent cette cour. Le bleu du ciel met en valeur la minéralité absolue de ce lieu. Après avoir contemplé les armes des Borelli sculptées sur le fronton qui surmonte l'avant-corps central de cet édifice sobre, aux lignes épurées, nous franchissons la porte d'entrée. Nous pénétrons dans le vaste vestibule. Sur notre droite, un escalier monumental s'élance sur une double hauteur. Sa rampe en fer forgé est un véritable ouvrage d'art. Nous levons la tête. Un lustre contemporain a pris place lors de la dernière restauration de l'édifice en 2013. Nous le devons à Mathieu Lehaneur. Ce lustre, composé de LED, enserré dans des tubes de verre borosilicate, nous dit que nous sommes à Marseille. Il se déploie comme un réseau de cordes de lumière suspendu au plafond, cousu sur le bâtiment lui-même, pour reprendre les mots du designer Mathieu Lehaneur. Nous déambulons désormais dans un lieu de fête et de réception, loin de l'austérité extérieure du bâtiment. Excellente nouvelle. Le château conserve encore aujourd'hui sa distribution et la majeure partie de son décor d'origine. Tout cela, nous le devons à Louis-Joseph Denis Borelli, parfois surnommé le Laurent Médicis de la Provence. Il a fallu 12 ans, de 1768 à 1780, pour réaliser l'ensemble du programme décoratif. Pour les plafonds, il fait appel au peintre d'Aubagne, Louis Chay, qui réalise de vastes compositions à sujet mythologique. Les murs sont ornés de trompe-l'œil, de camailleuses et de boiseries dorées. Au moment où je vous parle, c'est un peu comme si nous étions dans un château encore habité, où les œuvres viennent prendre place, tantôt dans le salon doré, orienté vers l'ouest et vers la mer, tantôt dans la bibliothèque, aujourd'hui convertie en cabinet de curiosité, tantôt dans le salon des bains, situé au-dessus de la chapelle. Nous sommes donc en train de flâner dans la plus belle des bastides, située au cœur de Marseille, construite par la famille Borelli entre 1768 et 1780. Nous sommes en train de déambuler dans un véritable château, entièrement restauré en 2013, pour abriter le musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode. Nous allons maintenant plonger dans l'exposition intitulée « L'Asie fantasmée, histoire d'exotisme dans les arts décoratifs en Provence au XVIIIe et XIXe siècle ». Les œuvres sont donc là pour nous inviter à faire des incessants allers-retours entre ces deux régions du monde apparemment fort éloignées, l'Asie et la Provence. Je vous propose de faire une première escale dans la salle qui n'est autre que le majestueux salon d'honneur au temps des Borelli. Une salle où nous pouvons justement admirer de merveilleuses gypseries, sculptés avec finesse sous les plafonds et au-dessus des portes. Ce sont des décors moulés et sculptés à partir de gypse cuit et broyé. Ce sont des décors typiques des intérieurs provençaux. Nous sommes à Marseille. Ici, les gypseries composent des guirlandes fleuries, des couronnes de laurier nouées de rubans, toutes d'une extrême délicatesse. Nous sommes donc dans ce salon d'honneur, pièce centrale de réception de la Bastide, et nous découvrons, parmi les chefs-d'œuvre représentés, un paravent. Un paravent de belle taille, il se déploie sur 4 mètres de long. Il est constitué de 6 feuilles marouflées sur toile, mesurant chacune 2 mètres de haut sur 65 cm de large. Il s'agit en fait de lait de papier peint, produit par la manufacture des ateliers de Joseph Dufour, rehaussés à la gouache. Ce paravent date du XIXe siècle. Il ornait initialement les salons du château de Vals à Moutier-Sainte-Marie, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Décrivons-le. Tout à fait en bas de notre paravent, du marbre peint en trompe-l'œil donne l'impression d'une plinthe. Juste au-dessus, sur un quart de la hauteur, se déploie une frise décorative. Un même motif se répète 8 fois. Il s'agit d'une représentation de 2 bouquetins qui se font face et qui broutent. Un arbre les sépare. Ces 8 motifs sont dessinés en noir sur fond couleur lin, au format paysage, et soulignés de cadres octogonaux écrus. C'est un peu comme s'ils s'inscrivaient dans des cartouches. Nous contemplons maintenant la partie haute du paravent et nous entrons dans le vif du sujet. Nous plongeons dans un univers lointain, dans un monde idyllique qui fait rêver. L'œuvre est littéralement spectaculaire, au sens propre du mot. Une scène pleine de pittoresque avec une pointe de romantisme se déroule littéralement devant nos yeux. Les teintes sont harmonieuses. Le bleu-vert d'une végétation omniprésente domine. Au premier plan, un paysage de berges est ponctué de sénettes. À l'extrême gauche du paravent, un pêcheur torse nu porte une canne à pêche dans sa main droite et un panier sous son bras gauche. Il s'approche d'un autre homme. Celui-ci est richement vêtu d'un long manteau blanc. Il porte un somptueux turban sur la tête. C'est un ottoman. À leurs pieds, un personnage enturbané lui aussi, mais aux atours beaucoup plus simples que le précédent, tend la main. Serait-il en train de faire l'aumône? Derrière eux, nous pouvons apercevoir d'autres hommes, dans des attitudes toutes différentes. L'un, appuyé sur un rocher, regarde la scène. Un autre, allongé, la tête posée sur son coude, se repose. Cette scène prend place sur le premier panneau du paravent et en occupe seulement un cinquième de sa hauteur. Elle est figurée avec beaucoup de précision et beaucoup de vie. Elle nous invite à partager un moment avec ce groupe d'hommes. À l'exception de 2 pêcheurs, l'un à peine visible et l'autre assis sur un rocher, tous ces hommes tournent le dos à l'étendue d'eau qui occupe le second plan. Nous y distinguons une embarcation légère, une barque, qui semble s'éloigner d'un vaisseau aux voiles affalées. Mais poursuivons notre observation du premier plan et regardons le panneau suivant. À droite de notre groupe d'hommes, devant de massifs rochers, 2 vaches et une chèvre sont les pieds dans l'eau, paisibles. Plus à droite encore, quasiment au centre de la composition, sur le 4e panneau du paravent, une femme tient son enfant par la main et porte sur la tête un panier de linge. Elle s'apprête à monter quelques marches d'un pont en ruine qui se déploie à l'ombre d'un arbre au feuillage lumineux et chamarré. Ce pont semble mener au vestige d'un temple. Il a traversé les siècles. Une partie de son soubassement et 5 de ses colonnes sont là devant nos yeux, progressivement envahies par la végétation. Ces ruines pourraient nous évoquer le Forum romain, ou peut-être quelques colonnes du sanctuaire d'Aphrodisias en région égéenne. ou encore le site d'Éphèse. La présence de ces ruines peuvent bien sûr nous renvoyer au dessin de Louis Chay. Louis Chay qui, rappelons-le, est le peintre à qui Louis-Joseph Denis Borély a confié le décor de la Bastide. Louis Chay, peintre d'Aubagne, qui a fait le voyage à Rome et qui en restera profondément marqué tout au long de sa carrière. Cette manière de traiter les ruines peut également nous évoquer les vues imaginaires du peintre, architecte et conservateur Hubert Robert, qui dans de magnifiques toiles a figuré ce que pourraient être des monuments comme le Colisée ou encore la Grande Galerie du Louvre après le passage des siècles. Des ruines somptueuses. Ici, avec ce paravent, nous sommes donc encore en plein néoclassicisme. Les références à l'antique sont toujours au top de la mode, dirions-nous aujourd'hui. Poursuivons. Sous l'arche du pont, une petite cascade s'écoule et alimente une étendue d'eau peu profonde. Si la femme et l'enfant que nous venons d'évoquer s'en éloignent, d'autres femmes, au contraire, s'y affairent encore, lavant leur linge blanc agenouillé dans l'eau, certaines seules, d'autres en groupe. Deux draps sont étendus au pied des colonnes du temple. Sur le pont, nous avons également une petite scénette. Deux hommes discutent sans prêter aucune attention à se la voir. Mais leur chien, lui, a ses deux pattes posées sur le parapet. Il semble captivé. À mieux y regarder, il est peut-être plus intéressé par cet homme qui figure sur le dernier lait, à droite du paravent, et qui est sur le point de tirer son filet de l'eau. Dans ce paysage à dominante bleu-vert, où la végétation est très présente, ponctuée çà et là de ruines et de rochers massifs, presque tous les personnages portent une pointe de rouge dans leurs vêtements. Ça les rend bien sûr plus visibles. Notons également que les tenues de ces personnes réunies autour de cette étendue d'eau sont plutôt occidentales. À ce stade de la description, vous allez me dire qu'il est difficile de dire où nous sommes. Nous sommes comme plongés dans un monde imaginaire, un lieu idyllique, une sorte d'Arcadie. Pourtant, ce paravent porte un titre sans équivoque, les rives du Bosphore. Jusqu'à présent, seuls les deux hommes enturbanés, décrits au tout début de notre présentation, auraient pu nous mettre sur la voie. Je vous propose donc de regarder plus loin, à l'arrière-plan. Là émergent des monuments et des demeures de familles patriciennes. À l'extrême gauche, les murailles et la tour crénelée pourraient nous évoquer l'une des deux forteresses Issari, situées de part et d'autre au point le plus étroit du Bosphore. Toujours dans le premier panneau, tout près de cette forteresse, à sa droite, la tour à silhouette cylindrique pourrait être la tour de Galata, qui s'élève à plus de 65 mètres et domine l'horizon de Constantinople. Elle est bien reconnaissable avec son toit conique, recouvert de plaques de plomb. Elle servit de prison sous Soliman le Magnifique, puis de tour d'observation astronomique sous Mourad III. Quelques monuments emblématiques nous invitent donc à faire un voyage imaginaire vers une Constantinople fantasmée, revisitée, dirions-nous aujourd'hui. Mais cette vue panoramique fait tout son effet. Nous sommes plongés au cœur d'une ville, au passé architectural flamboyant. Nous sommes dans ce détroit mythique, situé aux portes d'un Orient idéalisé. Plus prosaïquement, la description de ce paravent nous entraîne dans l'univers des papiers peints. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Ces papiers peints luxueux se substituent aux tapisseries dans les maisons de réception. Ils apparaissent à l'extrême fin du XVIIIe siècle et, dès 1810, on compte déjà 120 fabricants et marchands de papiers peints concentrés principalement dans le faubourg Saint-Antoine. En dehors de Paris, ils sont fabriqués à Rixheim, Lyon et Marseille. Cette technique est très féconde en innovations technologiques et en fantaisie décorative. Elle connaît donc un essor sans précédent. Certains papiers peints imitent les étoffes les plus diverses, d'autres les ornements architecturaux. Ils supplantent par conséquent les onéreuses tapisseries et les fonds de soieries, dans les demeures bourgeoises et aristocratiques. Ici, ce paravent nous donne l'occasion de parler d'une autre sorte de papier peint. Il nous laisse entrevoir ce que pouvait être un papier peint panoramique. Un papier peint disposé autour de toute une pièce. Il s'agissait d'une représentation d'un paysage continu, sans aucune répétition de scène ou de motif. Imprimé sur une suite de lais de papier se raccordant les uns aux autres. Il y a encore des fabriques qui utilisent ces techniques traditionnelles à la main pour produire ce type de papier peint. Je vous propose d'évoquer en quelques mots cette technique utilisée ici pour notre paravent. Les fonds de chaque lais sont brossés à la main pour dessiner des aplats ou de magnifiques dégradés. Ensuite, les motifs sont posés, reconstruits progressivement en quelque sorte, grâce à des planches de bois sculptées qui permettent d'appliquer une seule couleur à la fois, un petit peu comme des tampons. Vous pouvez imaginer à quel point cette technique est complexe et chronophage, car le nombre de couleurs est très important et le calepinage doit être extrêmement précis. Alors ici, le fait qu'il y ait le même rouge sur un certain nombre de vêtements, c'est justement lié à cette technique. Il faut imaginer qu'on fabriquait ce rouge, puis qu'on l'appliquait grâce à de multiples planches de bois sculptées sur chacun des personnages concernés. Le résultat est bluffant. Vous avez l'impression d'être au milieu d'une peinture où aucune scène ne se répète. L'effet de ces paysages qui nous enveloppent littéralement est fascinant et profondément immersif. À plus petite échelle, ce paravent nous plonge dans un Proche-Orient qui fascine, mais qu'on réinvente. Il est vraiment révélateur de la diffusion du goût de l'exotisme, du goût pour ses ailleurs fantasmés. Enfin, il témoigne de la force des liens entre Marseille et sa région et l'Empire ottoman. À cet égard, je voudrais vous évoquer brièvement Marius Michel, dit Michel Pacha, né à Sanary-sur-Mer. C'est un marin et un homme d'affaires au destin exceptionnel. C'est aussi un grand bâtisseur du XIXe siècle. Son métier ? Construire et moderniser les phares et les balises d'une grande partie des côtes de l'Empire ottoman. Il fait fortune et tout près de nous, à La Seyne-sur-Mer, dont le quartier lui rappelait le Bosphore que nous venons d'évoquer, il fait édifier des constructions inspirées de l'Empire ottoman. Il transforme cet endroit en station touristique à la mode. Il donne à ce quartier de Tamaris des accents éclectiques et orientaux. Pourquoi je vous parle de cet homme ? Eh bien parce qu'on peut encore aller voir ses traces, les traces de Michel Pacha, en nous rendant à la corniche de Tamaris, à La Seyne-sur-Mer. Nous y verrons l'institut qui porte son nom, ou encore le Grand Hôtel. Malheureusement, son château, avec son débarcadère privé tout en pierre, qui existait encore au début des années 80 et duquel il partait directement pour Istanbul, sont aujourd'hui détruits. J'ai voulu faire ce petit aparté pour vous souligner à quel point les liens, les échanges, les influences mutuelles sont diverses et intenses entre ces différentes contrées du monde, l'Asie et la Provence. Quittons ce paravent, poursuivons notre visite. Nous entrons maintenant dans le salon doré. Nous sommes au coucher du soleil. La lumière du soir fait chatoyer les couleurs et dorures. Je vous propose de nous asseoir. Nous allons maintenant partager un moment d'art de vivre à la française au temps des Lumières, au XVIIIe siècle. Nous allons converser, jouer, nous délasser en dégustant friandises et boissons nouvelles. Nous nous installons confortablement dans les coussins moelleux de la radassière, d'où nous pouvons contempler, aux heures chaudes de l'été, la vue sur le jardin La Française et au loin la mer Méditerranée. Une radassière. Radassière, c'est un mot qui vient du provençal radasso et qui signifie traîner, paresser. Une radassière, c'est donc une sorte de divan. Dans les maisons provençales, elle occupe une alcôve au fond du salon. Mais qu'a-t-elle d'exotique ? Elle est inspirée de modèles orientaux et en particulier ottomans. En bref, du divan à la turque. Alors ici, comme la Bastide est monumentale, vous vous en doutez, la radassière est, elle aussi, hors norme. Elle fait 8 mètres de long. C'est l'une des plus grandes reconnues à ce jour en Provence. Elle est constituée d'un immense coussin horizontal sur lequel sont posés des coussins aux dossiers inclinés. Le tout est habillé de tapisseries de buissons aux motifs floraux et colorés qui se détachent sur un fond or. Nous voilà donc assis dans un divan à la turque, habillés de tapisseries de buissons. Les cultures se mêlent. La mise en scène est impressionnante puisque l'immense radassière est posée sur une estrade et encadrée de pilastres et de colonnes dorées. Nous sommes donc somptueusement, confortablement installés et nous allons en profiter pour déguster un chocolat. Notre délicieux breuvage, notre chocolat, arrive des Indes occidentales. Il fut introduit en France via l'Espagne en 1615. Il est préparé dans la chocolatière en argent ici présente et remué délicatement à l'aide d'un moussoir, lui aussi en argent, ici présent. On nous le verse dans une de ces deux tasses en faïence provenant de la fabrique de la veuve Perrin, de tasses à chocolat, ornées d'un décor de petits feux blancs et or. Sur ces tasses, donc, nous voyons tracés alors, sur un fond blanc, des hommes vêtus à la chinoise, les cheveux tirés vers le haut, attachés au sommet de leur crâne, dans une petite couette. Ces hommes sont agenouillés sur des terrasses comme suspendues à divers niveaux, auxquels ils accèdent par des échelles en bois. Le tout est très aérien. Le décor enveloppe, anime la tasse sur laquelle figuraient également des oiseaux à long bec et hautes pattes, sans doute des grues, oiseaux fort appréciés en Chine puisqu'ils symbolisent la longévité et la sagesse humaine. Nous avons donc dans les mains une tasse en faïence tanifère, datant de 1770-1780, produite en Provence, arborant un décor orientalisant qualifié de chinoiserie. Rien n'est anodin, ni le décor, ni le fond blanc des tasses. Ces tasses ont été produites en faïence, dans les ateliers de la veuve Perrin, pour imiter la porcelaine de Chine. Cette porcelaine de Chine, produite dès le 8e siècle, rapportée en Europe dès le 13e, par les navigateurs comme Marco Polo, cette porcelaine de Chine acheminée beaucoup plus massivement à partir du XVIIe et notamment grâce à la Compagnie des Indes orientales. Cette porcelaine de Chine séduit pour sa blancheur, sa finesse, sa translucidité et la qualité de ses décors. Mais sa fabrication reste un mystère pour l'Europe jusqu'au XVIIIe et elle inspire les faïenciers de Delft, des Provinces Unies, mais aussi des manufactures de Marseille qui tentent de rivaliser. C'est donc dans ce contexte qu'il faut replacer les tasses que nous tenons maintenant dans les mains, les tasses produites par la fabrique de la veuve Perrin. Un petit mot sur cette femme admirable. La veuve Perrin est née Pierrette Candelot en 1709 et morte en 1794. En 1748, elle hérite de son mari d'une faïencerie de faible importance et en faillite financière. Elle a alors 39 ans. Elle se révèle immédiatement une véritable femme d'affaires. Elle agrandit ses ateliers dans le quartier de Mazargues à Marseille. Elle crée des logements pour ses ouvriers et ses apprentis, s'associe, rachète des faïenceries voisines pour produire des pièces d'une immense diversité, tant par leur forme que par leur décor. Après cette escale gourmande et pour finir en beauté, la flânerie de ce jour, je vous propose de nous réfugier dans la bibliothèque de ces lieux. Nous empruntons le majestueux escalier et pénétrons dans le cabinet de travail de Louis-Joseph Borelli. Les armoires vitrées d'origine sont toujours là. elles sont décorées en partie basse de grisailles. Ces grisailles, ces peintures en camaïeu de gris, sont élégamment soulignées par des moulures dorées. Les scènes figurées imitent des sculptures en bas-relief aux sujets antiques. Et le peintre Pierre Chay dédie la somptueuse composition ovale du plafond à Apollon, dieu des arts, entouré de ses muses. Nous sommes toujours avec ce rapport à l'antique, avec ce néoclassicisme omniprésent. Les livres ont disparu des rayonnages. Pour laisser place à des bibelots, nous admirons une exceptionnelle collection de verres chinois, mais aussi des céramiques françaises de la seconde moitié du XIXe siècle, inspirées par les émaux de Chine, et enfin des ivoires japonais. Nous plongeons dans la fièvre du bibelot qui s'empare des collectionneurs au XIXe siècle. Et là, nous sommes dans un véritable cabinet de curiosité. Une centaine d'objets sont présentés dans 8 vitrines. Alors j'ai particulièrement apprécié la scénographie, qui est très étudiée. Des jeux de lumière projettent les ombres des okimonos sur les toiles tendues au fond des vitrines, donnant à ces okimonos de petite taille une dimension monumentale. Je vous parle d'okimono, qu'est-ce que c'est ? Un okimono, c'est une statuette purement décorative, produite au Japon, dédiée à l'exportation et représentant le plus souvent des scénettes de la vie quotidienne. Nous allons contempler l'une d'entre elles plus longuement. Nous sommes maintenant devant un ivoire mesurant 22,5 cm de haut, daté entre 1904 et 1916. Nous touchons une silhouette d'une finesse remarquable. La femme arbore un chignon élaboré d'une sophistication qui émerveille. Le sculpteur a marqué avec délicatesse les mèches qui s'élèvent de son front pour être réunies et retravaillées en forme de goutte en partie supérieure. Elle porte un kimono brodé de fins motifs végétaux qui laisse entrevoir ses sandales de bois, ses guetta. C'est une geisha en costume traditionnel. Pourtant, ses épaules sont enveloppées d'un châle occidental, traité avec tant de précision qu'on peut compter les jours, discerner les torsades des franges qui ondulent délicatement sur ses épaules et sa poitrine. La virtuosité de l'artisan nous subjugue. Cette femme tourne la tête. Elle la baisse vers son fils, qui est tout près d'elle, à sa gauche. Son fils est vêtu et chapeauté comme un matelot américain. Il porte un sabre suspendu à sa ceinture. La pointe de ce sabre traîne nonchalamment sur le sol. De sa main droite, le petit garçon agrippe le kimono de sa mère. En revanche, il élance son bras gauche vers le haut et tout son corps exprime le désir d'attraper l'objet inaccessible que sa mère tient dans sa main droite. Il s'agit d'un navire miniature, magnifique, sculpté lui aussi dans les moindres détails, avec une extrême finesse. Nous avons devant nous une mère et son enfant capricieux. La scène est intimiste, anecdotique, dans la tradition des okimonos. Ces statuettes décoratives apparues sous l'ère Meiji. Le naturalisme est délicat. Les postures sont justes, le raffinement extrême. Autant de points qui séduisent les collectionneurs comme Jules Cantini, qui avait une grande sensibilité esthétique, autant de points qui nous séduisent. Nous sommes charmés, nous sommes fascinés par l'élégance de cette femme, par la finesse de cette sculpture, par l'expressivité des personnages. Certains éléments iconographiques ont conduit à intituler cette œuvre Madame Butterfly, Chocho-san, papillon en japonais. Sans doute, vous connaissez le destin tragique de cette geisha, séduite puis abandonnée par l'officier américain Pinkerton. cette histoire qui fut mise en scène dans la pièce de théâtre de David Belasco, puis dans le célèbre opéra de Giacomo Puccini en 1904. Alors cette œuvre, cet okimono, je la trouve intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord, pour son intérêt esthétique que nous avons déjà largement évoqué, qui a donc séduit le collectionneur marseillais Jules Cantini, qui nous séduit aujourd'hui encore. Mais elle nous parle aussi de ce Japon. Un Japon dont les frontières se sont fermées en 1639 pour laisser place à une période d'isolement de 200 ans, et un Japon qui se voit contraint, en 1854, sous la pression des canons américains, de mettre fin à cet isolement commercial. Un Japon qui entre dans l'ère Meiji, se métamorphose, s'occidentalise. Un Japon auréolé de mystères, qui intrigue et fascine les collectionneurs. Un Japon qui infuse le monde des artistes et des intellectuels et devient une source d'inspiration puissante. Un Japon qui fait naître en Occident le mouvement artistique appelé le japonisme. Cette fascination, elle est loin d'être unilatérale. L'archipel nippon est, lui aussi, captivé par la modernité occidentale. Échanges, dialogues, inspirations croisées se multiplient. Et les okimonos, ces statuettes décoratives, sont justement créées pour l'export. Les artisans traitent des sujets et des motifs qui plaisent à l'Occident. Alors, cette Madame Butterfly, en serait-elle justement une magnifique expression? Il est temps maintenant de mettre fin à notre flânerie et de conclure. J'espère que cette visite, qui se voulait une invitation au voyage, vous aura guidé en Provence, à Marseille, l'un des carrefours du monde, mais aussi dans une Asie plurielle, renouvelée, fantasmée. Une Asie qui inspire les artistes, une Asie omniprésente dans les arts décoratifs occidentaux, une Asie fantasmée, comme ce Bosphore qui anime les laits du paravent qui nous a accueillis dans le salon d'honneur. En partageant avec vous un chocolat chaud dans les tasses de la fabrique de la veuve Perrin, confortablement installée dans la radassière monumentale du salon doré, j'ai cherché à vous faire revivre quelques instants d'un siècle des Lumières, marqués par le goût pour l'exotisme. Enfin, notre dernière escale dans la bibliothèque vous aura sans doute permis de prendre la mesure de la fascination que l'Asie, et plus particulièrement le Japon, a exercée à la fin du XIXe et même jusqu'au début du XXe. En vous entraînant dans ce château Borély, qui se visite depuis plus d'un siècle, depuis 1814, comme en attestent les guides de tourisme du XIXe, j'espère vous avoir donné envie d'y découvrir vous-même les mille et une autres œuvres que je n'ai pas pu évoquer avec vous aujourd'hui. Cette boîte à musique, ces châles au motif cachemire. Autant d'œuvres qui témoignent de regards croisés entre art et culture. L'exposition est visible jusqu'au 19 mai 2024. Rendez-vous à Marseille, au château Borély, pour en savoir plus sur les histoires d'exotisme dans les arts décoratifs de Provence au XVIIIe et XIXe siècle. Ce podcast, écrit, enregistré et monté par moi-même, est la trace orale de notre déambulation téléphonique du mois de septembre 2023 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour nous accompagner, j'ai choisi quelques notes du troisième mouvement de la sonate pour piano numéro 11 de Mozart, le Rondo à la Turque. Composé en 1780, cette marche serait inspirée d'un orchestre de janissaires turcs. Gaie et enjouée, elle apporte encore un témoignage de ce goût pour un exotisme rêvé, pour une Asie fantasmée à la fin du XVIIIe siècle.